Bonjour. Nous reprenons notre étude habituelle. Les personnes intéressées par le texte pourront me le demander. Nous prions. Parle, Seigneur, à moi, à nous tous. Nous voulons t'écouter. Amen. C'est notre sixième étude sur l'aventure de Ruth. D'abord, quelques mots de généralité. Quelle surprise ! Ruth, l'étrangère, est admirable de fidélité à l'égard de Naomi. Mais sa situation est bien triste, bien que jeune. Elle est veuve, étrangère. Elle vit avec une femme remplie d'amertume et maintenant elle va glaner un bien petit métier à venir boucher. Mais quand on lit sa vie au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'avenir n'est pas joué. Cela peut mener à de réelles surprises. Nous lisons dans Ruth, au chapitre 2, les versets 1 à 7. Ruth 2, verset 1er. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et il se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi: « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit: « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur: « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent: « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: « À qui est cette jeune fille, cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit: permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Introduction. Au creux de l'émotion la plus grande, chacun entreprend à sa manière de poursuivre l'action. C'est parfois l'obligation de porter assistance qui engage au combat de la vie. Ruth s'en va glaner. Elle agit en responsable de sa propre survie, mais aussi de celle de Naomi qu'elle aime. L'amour guide toujours sur des sentiers unis. Un troisième fil la guide dans un champ de générosité. Étrangère, elle n'est pas réprouvée, mais accueillie. Elle est respectée et sa vie de glaneuse est facilitée. Le patron, Boaz, agit en homme de bien, il salue en elle le comportement solidaire et lui-même croyant la place sous la bénédiction du Seigneur. Accueil et bénédiction sont des attitudes inséparables de la vie de la foi. Pour invoquer la bénédiction divine, il n'est besoin que d'une chose: se souvenir que le lien entre les êtres se noue à trois fils. Ecclésiaste 4. Simple question maintenant. Pour écouter la parole vivante de Dieu, suivie de commentaires. Première question. Que sait-on de cet homme appelé Boaz ou Boaz? Naomi avait un parent du côté d'Élimélec, son mari. C'était un homme riche et considéré, appelé Boaz. Que dire ici sur ce verset? Naomi avait un parent de son mari. C'est dit comme ça, au commencement du deuxième chapitre, mine de rien, sans avoir l'air d'y toucher. On ajoute, parce que c'est une précision qui vaut la peine d'être donnée, que c'est un homme puissant et riche. Et puis après tout, pourquoi ne pas dire son nom puisqu'on y est? Il s'appelle Boaz. Que deviendra cet homme pour Ruth? Le chapitre premier nous a raconté comment Ruth, la Moabite, en vint à vivre à Bethléem. Elle y serait restée une obscure veuve si elle n'avait pas rencontré son futur mari. Dieu va répondre à la foi naissante de Ruth en présentant d'emblée Boaz. Boaz est un homme puissant et riche. Il vient de Bethléem où Jésus naîtra. Il se révélera progressivement à Ruth. Tout d'abord comme le seigneur du champ, puis comme l'ami de la famille, et finalement comme le sauveur, le rédempteur, avant de l'épouser. Avant que Boaz devienne son mari, quel exemple nous donne Ruth? Ce chapitre est marqué par une activité intense. Tout se passe sur les terres appartenant au maître de la moisson, Boaz. Arrivé de Bethléem, Ruth ne reste pas oisive. Elle s'adonne à un travail à sa mesure et s'y applique. C'est ainsi qu'elle entre en contact avec Boaz, qui lui parle, lui donne des conseils judicieux. Elle découvre aussi sa sollicitude, sa bonté, sa générosité. Elle se donne de la peine et travaille beaucoup, ce qui réjouit son entourage, qui l'apprécie pour son sérieux et son dévouement. Puisse-t-il en être ainsi en ce qui nous concerne, lorsque nous entrons dans l'Église, le peuple de Dieu, et que nous comprenons qu'il y a du travail pour nous dans la moisson dont Jésus est le maître? Ne restons pas oisifs, mais il faut s'adonner à un travail à sa mesure et s'y appliquer. Bel exemple pour nous, pour moi. Deuxième question. Que propose sans tarder et courageusement Ruth à Naomi? Un jour, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Permets-moi d'aller dans un champ ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. Je trouverai bien quelqu'un d'assez bon pour me le permettre. »« Vas-y, ma fille, » répondit Naomi. Que dire ici sur le glanage? Pour quelqu'un qui connaît tant soit peu la vie des champs, demander la permission d'aller glaner, c'est quand même un comble. Parce que s'il y a un métier de chien, c'est bien celui-là. Si on peut dire d'un métier que c'est le dernier des métiers, c'est bien celui de glaneur. Ce n'est même pas un métier, c'est tout juste si ce n'est pas une mendicité. Ramasser les miettes sous la table, finir l'assiette sale du riche, quand il n'y a plus que des lambeaux de viande à arracher, aux os déjà épluchés et qui sont à moitié collés dans la sauce refroidie. aller glaner. Ceux qui l'ont fait par nécessité pendant la guerre savent combien ça vous casse les reins. Vous revenez avec un sac plein, mais quand c'est épluché, vous pouvez moudre votre récolte dans le moulin à café. Et si vous voulez vraiment en avoir assez pour faire du pain, il faudra vous lever de bonne heure, de très bonne heure, et vous coucher tard, très tard. Que peut-on préciser encore ici sur Ruth ? 1. Ruth est veuve et étrangère. Ruth aurait pu se plaindre de son sort, peu enviable. Pourtant, elle choisit de travailler dur. Dieu l'accompagne dans son entreprise, puisque sans le savoir, le champ où elle glane appartient à un membre de sa famille. Ruth ne se laisse pas vaincre par les difficultés de la tâche, elle persévère. Si Dieu intervient dans nos malheurs, il ne nous demande pas de rester les bras croisés. Sa grâce n'est pas un oreiller de paresse. 2. Tant et tant de chrétiens s'imaginent, lorsqu'ils se sont convertis, que c'est eux qui ont fait une grâce au bon Dieu. Ils se croient tout permis. Ils peuvent demander à Dieu tout ce qui leur passe par la tête. Ruth n'est pas comme ça. Elle demande la permission d'aller glaner dans le champ de celui aux yeux duquel elle trouva grâce. Elle est entrée sur un chemin nouveau. Elle y avance prudemment en mettant le pied dans l'empreinte des aînés. Elle demande permission. Elle s'attend uniquement à la grâce. L'obéissance, chemin de la grâce. 3. Ruth est changée. Telle est la vérité profonde. On l'appellerait aujourd'hui une nouvelle convertie. Et ils sont quelquefois terriblement encombrants, les nouveaux convertis. Tant de zèle, tant d'ardeur, tant de flamme, tant d'allant. C'est tout juste si leur pasteur n'est pas subitement devenu une vieille barbe qui n'y comprend plus rien. Ce vin nouveau, comme il fermente, comme il bouillonne, ils vont tout avaler, tout réformer, ma parole. Ils croient pourtant que c'est arrivé. Personne n'a plus rien à leur apprendre. Le Saint-Esprit les guide infailliblement. Les anciens, il faut les secouer, les réveiller, les entraîner au contraire. Ruth est changée, mais chez elle, rien de tout cela. C'est très pur, c'est solide jusqu'au fond. 4. Le croyant qui entre dans la maison, dans la moisson du maître, doit pour commencer apprendre à être fidèle dans les petites choses, à ne pas mépriser les petits commencements. Il doit apprendre à respecter et à apprécier ce qui lui paraît peut-être à première vue peu spirituel, peu glorieux. Voici encore un point important. Le chrétien, né de nouveau, face aux besoins des âmes perdues, et parce qu'il aime son Sauveur, éprouve un impérieux besoin de faire quelque chose pour Dieu. Cependant, il faudra qu'il apprenne au cours de sa marche avec Dieu dans la vie nouvelle à travailler, non pas pour Dieu, mais avec Dieu. Il devra découvrir ce que signifie ce texte « marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance ». Oui, travailler, mais avec Dieu. 3. Que se passe-t-il d'important par hasard ou non? Ruth partit donc et alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Or, il se trouva que ce champ appartenait à Boaz, le parent d'Élimélec. Que dire sur ce verset? Nantie de la permission demandée, Ruth va glaner. Naomi ne lui dit pas où, elle lui dit simplement va, et elle va. Et comme par hasard, elle commence par un champ qui appartient à Boaz. Tout à fait par hasard. Elle n'en savait rien. Tout ce qu'elle voulait, c'était de glaner. Peu importe où, du moment qu'on l'a laissé faire. Seulement voilà, c'est chez Boaz qu'elle commence. Parce que le Saint-Esprit ne dédaigne pas de sourire quand il combine les plans divins. Par hasard. Comme s'il y avait un hasard quand on a décidé de se livrer à la grâce. Quand on a dit à Dieu, je te choisis. Le cœur de Dieu tressaille. Dieu n'est pas sourd. Lui qui a planté l'oreille de l'homme, il est là. Et quand on décide de le prendre pour son Dieu et d'accepter son grand plan pour le salut des hommes, il est là. Et il ne reste pas inactif. La décision qu'on prend détermine un grand menu, un grand remue-ménage dans le ciel. Dieu met en place toutes ses batteries et dispose son plan avec soin. Comment préciser encore les choses sur le hasard? Il n'y a pas de hasard proprement dit dans la vie du croyant. Le hasard, c'est la providence divine. Les projets que forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne de la bouche vient de l'Éternel. Ceux qui s'attachent au bon berger sont conduits par lui sur la bonne voie. Parfois, sans vraiment s'en rendre compte. Très souvent, c'est beaucoup plus tard que nous nous apercevons que Dieu nous a conduits, gardés, protégés. Pas de hasard. Mais de Dieu, un mot pour chacun, pour toi peut-être, tout spécialement ce matin, un mot qui m'a suivi très très longtemps et qui m'a encore beaucoup encouragé ces temps. Je le cite, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie qui doit suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Quatrième question. Quel est le genre particulier de salutation échangée? Un peu plus tard, Boaz arriva de Bethléem et salua les moissonneurs en disant « Que le Seigneur soit avec vous !»« Que le Seigneur te bénisse » répondirent-ils. Quel est l'aspect positif de la salutation de Boaz et des ouvriers? Boaz souhaite la présence de Dieu à ses moissonneurs travaillant dans son champ. Cette salutation ne profite pas seulement à qui elle est adressée, mais aussi au maître qui la prononce. Parce que si Dieu est avec les ouvriers, le travail sera fructueux et le patron en tirera aussi profit. De même, les ouvriers souhaitent à leur employeur que Dieu le bénisse. Ce qui ne peut que lui être favorable. Si Dieu est avec le patron, les mercenaires, les ouvriers, eux, ne manqueront pas de gagne-pain. Si ce principe était appliqué dans notre monde de travail, beaucoup de conflits sociaux pourraient certainement être évités. Mais nous vivons dans un monde où les règles, ces règles, sont ignorées. Par contre, Boaz, lui, il ne dit pas en arrivant, « Bande de feignants, qu'est-ce que vous faites encore à traîner au lieu de travailler ?» Il ne les traite pas non plus avec une certaine condescendance, comme ferait un bon pilier de paternalisme. Il les salue au nom de Dieu Tout-Puissant et leur dit « Que l'Éternel soit avec vous ». De leur côté, les ouvriers ne se disent pas l'un à l'autre avec un regard en dessous « 22, voilà le patron !» en faisant mine de travailler plus fort. Ils ne serrent pas le poing dans la poche à sa vue, ils ne le maudissent pas. Ils lui rendent sa salutation dans le même langage, avec la même grandeur, avec aussi la même foi et la même simplicité. Que l'Éternel te bénisse. Quel exemple pour nous. Voilà donc une coutume à ne pas pratiquer par habitude seulement, mais de tout cœur. Je suis convaincu que dans ce cas, beaucoup de relations entre humains et surtout entre croyants deviendront plus fraternelles, plus chaleureuses. Se saluer, c'est accepter l'autre et lui souhaiter du bien. Cinquième question. Que se passe-t-il de particulier à cause de la nouvelle glaneuse ? Boaz demanda au chef des moissonneurs, « Qui est cette jeune femme ?» L'homme répondit, « C'est la jeune Moabite, celle qui a accompagné Naomi à son retour de Moab. » Comment expliquer la question de Boaz ? Derrière les ouvriers, il a vu quelqu'un de nouveau. Ce n'est qu'une malheureuse petite bonne femme en train de glaner. Elle ne travaille même pas pour lui. Mais elle est là, et là, c'est chez lui, et il l'a vu. Ce n'est pas normal qu'on vienne glaner si tôt. C'est défendu d'habitude, tant que les gerbes sont encore là. Comme elle doit être dans le besoin, cette solitaire, pour s'être avancée déjà dans le champ derrière les moissonneurs, n'a-t-elle donc personne au monde? Serait-ce une veuve, une orpheline, quelqu'un qui n'a pas de foyer, que personne ne défend? C'est pourquoi il dit à ses ouvriers, « À qui est cette jeune femme ?» Ce qui peut se comprendre, cette jeune femme n'a donc personne. Quelle détresse l'a amenée là? Et la façon dont il dit cela montre bien qui se préoccupe d'elle réellement. Pourquoi cela arrive-t-il ainsi? À la minute même où Ruth, encore au pays de Moab, a pris la grande décision de sa vie, à l'instant où elle a déclaré solennellement « Ton Dieu sera mon Dieu », s'engageant même avec imprécation, le ciel tout entier a été pris à témoin. Dans un tel engagement, le Tout-Puissant est là. Le contrat est bilatéral. Il est conclu entre deux personnes vivantes. Et Dieu se met aussitôt à l'œuvre. Il dispose toutes choses de manière à rendre effectif ce qui a été décidé. Il lui faut maintenant se faire connaître à cette âme qui lui a fait confiance. Elle vient de loin, elle a tout à apprendre. Il faut donc pour commencer qu'il la mette sur le bon chemin, celui qui la conduira à la plénitude de la connaissance de son Dieu. Que se passe-t-il aujourd'hui pour ceux qui honnêtement se décide pour Jésus? La plus petite âme, la plus abandonnée, la plus misérable peut venir. Du moment qu'elle se tourne vers Dieu, elle l'intéresse et son Christ lui-même vient au-devant d'elle. Elle n'en sait rien encore. Occupée qu'elle est à ramasser les épis qui traînent, elle ne peut remarquer le conciliabule qui s'est engagé entre Boaz et les moissonneurs. Et cependant, c'est d'elle qu'on parle. Et rien de ce qui la concerne ne reste caché dans l'entretien dont elle est l'objet. Dans le secret des anges et de Dieu, on la loue. C'est une prosélyte. On est heureux qu'une âme ait choisi le peuple de Dieu pour son peuple. Sixième question. Quel avis élogieux fait alors le serviteur? Elle a demandé la permission de glaner derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. Quelle précision fait-on sur Ruth? On explique aussi qu'elle n'est pas là sans permission. Elle a demandé qu'on lui permette de glaner derrière les moissonneurs. Enfin, on la loue parce qu'elle est acharnée et qu'elle ne mesure pas sa peine sous le grand soleil de l'Orient. On peut témoigner en faveur de quelqu'un ou contre quelqu'un. Nos actes témoignent en notre faveur ou contre nous. Ici, la manière d'agir, de travailler de Ruth témoigne en sa faveur. Cela amène le serviteur de Boaz, chargé de surveiller les moissonneurs, à avoir un témoignage en faveur de Ruth auprès de son maître. Quel exemple pour nous ! Puisse notre attitude, nos actes, témoigner également en notre faveur, car ne l'oublions jamais, par la même occasion, ils témoigneront en faveur ou contre notre Seigneur et Sauveur, dont nous sommes les témoins. Si, comme Ruth, nous travaillons par amour, avec zèle, avec consécration, dans le respect des autres et avec humilité, nous saurons faire apprécier Jésus. Conclusion. Imitons cette femme. Dès la première journée de travail, Ruth manifeste le vrai caractère d'une servante de Dieu. Elle cherche à se rendre utile. Elle est zélée. Elle n'est pas paresseuse. Elle est énergique, elle travaille de ses propres mains et se fera remarquer par son bon témoignage auprès des autres serviteurs du maître. L'attitude de cette femme est celle qui doit caractériser aujourd'hui les serviteurs et les servantes de l'Assemblée. Un dernier mot. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit ce matin, à moi et à toi? Je termine par quelques phrases citées. Ne pas rester oisif, s'adonner à un travail, à sa mesure et s'y appliquer. Ruth ne se laisse pas vaincre par les difficultés de la tâche, elle persévère. Les nouveaux convertis, personne ne peut plus rien leur apprendre. Le Saint-Esprit les guide infailliblement. Mais chez Ruth, rien de tout cela. Elle apprend à être fidèle dans les petites choses. Travailler, oui, mais avec Dieu. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs ont insisté pour que le Seigneur rentre dans la maison avec eux et partage leur repas. Et c'était un moment extraordinaire pour ces deux disciples. Mais à l'inverse, le Seigneur lui-même nous invite maintenant à sa propre table. Et en faisant un commandement, il insiste. Il insiste pour que nous nous approchions et que nous prenions ce repas en sa présence. Bien sûr, le texte biblique nous dit que nous devons venir dignement, mais ça ne veut pas nécessairement dire que nous devions être dignes et parfaits. Le Seigneur sait bien que nous sommes imparfaits. Le Seigneur sait bien que, comme les deux disciples, nous ne comprenons pas. Ou nous voulions croire autre chose. Ou nous sommes déçus parce que on a cru que c'était la fin de toute chose lorsque le Seigneur est mort. Et pourtant, le Seigneur insiste que dans notre imperfection, nous puissions nous approcher. Et le Seigneur nous invite à un moment extrêmement intense. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même est intervenu dans la vie de l'église de Corinthe pour rappeler aux chrétiens que ce n'était pas simplement un bon moment à partager avec le Seigneur, mais que c'était un moment extraordinaire pour notre foi. Et voici ce qu'il leur dit. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, il y a trois choses à laquelle nous sommes invités lorsque nous prenons le pain et le vin. La première, c'est chacun individuellement de se dire « Seigneur, je saisis à nouveau l'œuvre que tu as faite pour moi à la croix. » Même si c'est difficile de reconnaître encore mon péché, de me repentir, je reconnais que c'est grâce à ta mort que je peux vivre aujourd'hui. De la même manière, nous confessons aussi que nous avons placé notre espérance dans le Seigneur et que nous attendons son retour, puisqu'il nous dit de continuer ceci jusqu'à ce qu'il revienne. Que ce repas puisse nourrir aussi votre espérance. Mais l'autre chose aussi que nous faisons, c'est que nous sommes en communion avec le Seigneur, il nous est dit ici. Et comme nous prenons du pain et du vin qui nourrissent notre corps, nous sommes aussi attachés au Seigneur comme le sarment est attaché au cep. Sa sève, par son Saint-Esprit, entre en nous et affermit notre foi et notre espérance. Et la dernière chose que nous faisons ensemble, c'est que nous proclamons les uns aux autres, mais aussi au monde autour de nous, que l'histoire repose sur l'œuvre du Seigneur et qu'elle est dirigée par l'œuvre du Seigneur. Et c'est une œuvre de proclamation et c'est pour ça que nous le faisons tous ensemble, unis dans cette même communion. Chers amis, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient émerveillés au moment où ils ont pris le repas, je vous invite à ouvrir votre cœur et à prendre ce pain et ce vin et à vous accrocher à cette confession de votre propre foi, à cette espérance que le Seigneur a mis dans votre cœur et aussi de tendre la main parce que c'est de lui que viendra votre vie par son Saint-Esprit jour après jour. J'aimerais inviter Craig et Nathan à s'avancer et je demanderai à l'un et à l'autre de prier en notre nom et remercier le Seigneur pour le pain et pour le vin. Je demanderai à Nathan.
Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je ne suis pas une bonne personne. Grâce à toi, grâce à ton corps qui a été brisé sur la croix, j'ai l'espérance de passer le reste de ma vie avec toi, Seigneur. Je te loue pour ça. Amen.
Seigneur, merci qu'on a le privilège d'être là ce matin avec toi, Seigneur, avec toi à côté, avec nous. Merci parce que tu es mort pour nous sur le croix, ton sang a coulé. Et ce matin, on a le privilège de partager le souper entre tout le monde avec toi, Seigneur, en se rappelant que tu es mort pour nous. Mais en se rappelant aussi qu'il y a un jour où tu reviendras, nous prendre avec toi. Amen.
Le Seigneur prit du pain et le rompit, et il dit, « Mangez-en tous, ceci est mon corps. » Ensuite, le Seigneur prit une coupe et la distribua entre ses disciples et leur dit, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang et c'est le sang d'une alliance éternelle. »
J'aime bien ce temps de silence aussi qu'on nous prend dans la scène. Les prières, c'est chouette, mais c'est bien aussi ce temps de silence et de recueillement. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose dans l'église ce matin. Ah, il y en a qui ont vu. Oli ?
Il est juste 2 minutes et on cherche les
points. Ah, zut alors, j'ai raté mon effet. Hein. Merci. On va vous expliquer. Pendant ce temps-là, on va parler des activités cette semaine. Les activités de l'Église cette semaine, il y a passablement de choses aussi pour la semaine et pour la suite. Demain, Femme Club à 14h, chez Rebecca. Demain soir, quelle heure on a mis là ? 19h30, ça se met même un jour tout seul, c'est fabuleux. Merci Philippe. 19h30, le conseil d'anciens. Mercredi, la chorale ici. Jeudi soir, réunion de prière ici. Et puis samedi, un samedi chargé avec le matin, le club d'enfants. Alors le club d'enfants, vous avez des papillons à la sortie. On vous a demandé les boîtes de conserve, vous les avez amenées ? Vous avez mangé vos petits pois cette semaine ? Important, hein ? Le club d'enfants a besoin de boîtes de petits pois, vides. Ou d'haricots, comme vous voulez. Et encore, il a besoin de rouleaux. Alors, pas n'importe quel rouleau. Les rouleaux vides de papier ménage ou d'essuie-tout pour les Suisses, c'est la même chose, hein ? C'est ces rouleaux vides, là. Donc, vous téléphonez à Rebecca parce qu'elle en a besoin d'ici samedi. Donc, vous dites, j'en ai 22, 23. Il en faut un certain nombre. Hein. Et Rebecca viendra les chercher, là, vous voyez un petit peu. Donc, pensez-y, puis pensez à amener les enfants. Et pensez, si vous ne venez pas à prier pour ce club d'enfants samedi. Samedi aussi, le groupe de jeunes à 19h, à jeun. Donc, sans manger. À jeun, ouais, c'est comme ça qu'on dit aussi. Hein. C'est-à-dire sans avoir mangé, voilà. Le week-end d'après, le week-end du 29, dimanche 29, 9h30, café au sous-sol, 10h30, culte ici avec présentation d'enfants, d'Alice et de Samuel. Ensuite, on aura un pique-nique en commun, on va faire un pique-nique comme ça, comme on a une réunion l'après-midi, ça sera un petit peu plus vite fait, donc vous amenez votre pique-nique, vous en prenez un petit peu plus pour prendre un petit peu pour inviter aussi, hein, pour qu'on puisse venir glaner dans votre pique-nique aussi, un petit peu. Et puis l'après-midi, donc, on a une réunion de membres ici, il y aura une garderie, on fera le point sur l'année écoulée, et puis on se projettera sur l'année à venir avec le regard fixé sur ce que Dieu attend de nous pour l'Église. Ah, je vous laisse la place, c'est très bien. Oui, j'ai dit qu'il y aura une garderie.
Bonjour. Bonjour. Alors, on est devant vous aujourd'hui pour vous expliquer parce qu'en fait, hier, on est venu à l'église et on a changé le verset là. Et on aimerait bien vous expliquer pourquoi on a mis celui-là. Donc en fait, en ce moment, avec le groupe d'ados, on était en train d'étudier le thème du péché. Et donc il y a eu un vote et c'est celui-là qui est ressorti. et on le trouve vraiment très intéressant.
Oui, ben, on trouve cette question très intéressante parce que c'est une question... que tout le monde se pose, et puis on peut même dire que tout le monde se l'est déjà posé. Et même les gens qui ne sont pas chrétiens ou qui viennent de d'autres religions, bah, tout le monde se pose cette question. Et en fait, la réponse, elle est vraiment très simple, et puis elle consiste en une seule phrase.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Oui, bah, c'est vrai que cette réponse, elle est vraiment très simple, mais on aimerait bien vous laisser sur une autre question. Et ça fait, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Merci.
Ah ! Bluffé, là, hein ? Eh, les ados, juste une minute. Quand j'étais à votre âge, je suis dans une église, j'allais dans une église de temps en temps, et c'était marqué la même chose en espagnol. C'est les seuls mots que je sais dire en espagnol. C'était marqué « Seigneur que quiere que haga ». Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ça voulait dire un petit truc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Merci beaucoup. Je ne sais plus où j'en suis, moi. Voilà, on était donc à dimanche prochain. Okay ? Alors, la semaine d'après, important, il y a deux choses le samedi 4 février. D'abord, on vous invite à aller faire un tour au sous-sol, à réfléchir si vous n'avez pas laissé quelque chose dans le local où il y a la chaudière. Le local où il y a la chaudière, c'est là où arrivent toutes les choses qu'on ne sait pas où mettre. C'est-à-dire, vous laissez, vous oubliez quelque chose, vous avez un décor parce que vous avez fait une présentation à l'église une fois, et ça vient tout en bas, alors que vous, que ça soit bien clair. Vous devez aller voir si vous avez une fois laissé quelque chose. Le samedi 4 février, tout ce qui est là-dedans va être mis à la déchetterie. Donc, c'est pas la chaudière, rassurez-vous, mais tout ce qui est autour de la chaudière. Tout ce qui ne sert à rien, qui n'a pas de nom précis, va être mis à la déchetterie. Ça, c'est le premier point. Donc, allez-y d'ici la semaine prochaine, hein, pour voir rapidement si c'est quelque chose à vous, je ne sais pas, un vieux canapé, un coussin, un tapis, un manteau, une échelle, il y a un tas de choses, hein, toute grandeur, confondue. Et puis, le 4 février, on a besoin d'une 8-10 personnes costauds pour sortir tout ça. Il y en a, hein. Et puis, emmener ça à la déchetterie, donc faire un grand nettoyage, on va dire, de printemps, de fin d'hiver, spécialement dans ce local. Donc, vous êtes les bienvenus le samedi matin, 4 février, ici, pour ce travail un peu plus physique. Et puis, le même jour pour les dames, ça ne veut pas dire que les dames ne font pas un travail physique aussi, hein, mais le même jour pour les dames, Christiane m'a dit ce matin, si vous n'avez pas une bonne excuse, mesdames, alors si vous n'avez pas une bonne excuse, vous devez aller... Vous devez vous inscrire sur un site qui s'appelle tuesprécieuse.com, voilà, www.tuesprécieuse.com. Vous pouvez vous inscrire pour cette journée qui est spécialement pour vous. Vous devez avoir une bonne excuse pour ne pas le faire, donc. Voilà, c'est Christiane qui m'a demandé de vous dire ça encore. Voilà, pour les annonces des activités, je crois que j'ai rien oublié. Juste pensez à nos deux sœurs qui sont souffrantes, qui sont en convalescence. Pensez à Hélène Tadfort, qui cette semaine donc doit aller passer des tests pour voir si on peut l'opérer début février. On veut aussi continuer à prier pour Hélène qui ne peut pas se joindre à nous parce qu'elle est fatiguée. Et puis pensez à Madeleine qui est en convalescence, qui souffre aussi toujours suite à son opération. Vous pouvez aller la voir à Villa, c'est pas loin, une petite heure d'ici. Et puis, vous pouvez les faire une visite, ça lui fera vraiment plaisir. Je ne sais pas quand elle rentre, mais on le mettra sur le site quand elle rentre. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, je crois que je n'ai rien oublié. Alors, je vous invite à vous lever. Et je vous lirai encore deux versets qu'on trouve... qui vont avec ce qu'on a entendu ce matin sur pourvoir comme Dieu a pourvu dans la vie de Ruth, qui vont avec ce verset aussi, cette interpellation... C'est vraiment une bonne interrogation. Et à la fin de l'épître de Paul aux Philippiens, il y a ce texte de Paul qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. » Amen.